Objectif numérique, épisode 36. Au menu, un cinquième défi photo, une poussière sur le capteur, des sites intéressants, une lentille cornéenne munie d'un zoom, une foule de trucs et conseils par vos trois animateurs et la critique du Sony A99. Au micro, Christian Jarry.
Salut Stéphane.
François Blanchette.
Salut.
Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Et on va faire quelques petites annonces et trucs intéressants en introduction d'épisode. On a un cinquième défi photo à vous proposer, chers auditeurs. Ce défi portera sur les animaux, photographie animalière.
Et non, vous n'avez pas. On peut pas prendre de photos de politiciens. Là, on veut vraiment des animaux.
oui, c'est ça.
Excusez-moi.
Donc, vous aurez, comme à l'habitude, plusieurs semaines pour participer. Vous nous envoyez vos images. On a une nouvelle adresse email pour les images du défi photo. C'est tout simplement défiphoto@objectifnumérique.com. Et Christian est content de ne plus recevoir 300 000 emails dans sa boîte.
J'adore voir vos photos, mais j'avoue que ça l'obstrue un peu mon courriel. Là.
Oui, il y a souvent des gens qui reçoivent des messages comme quoi ça n'a pas pu être distribué. On va essayer de remédier au problème le plus rapidement possible. Maintenant, François va répondre à un auditeur qui a un petit problème, je crois, avec son appareil.
Oui, il nous a envoyé des photos pour illustrer son problème. En fait, il nous a envoyé 3 photos. Et sur chacune de ces photos, il y a une espèce de petite tache qui se retrouve souvent au même endroit. Alors, en fait, je dis souvent, elle se retrouve au même endroit. Et sa question étant, qu'est-ce que c'est que ce problème? Donc,
quelque chose me dit qu'il ne l'a pas demandé exactement comme ça, par exemple.
Non, mais c'est comme ça que je l'ai vu, moi.
C'est bon.
Donc, il a fait un appel à l'aide à l'équipe d'Objectifs numériques. Et voici notre réponse. J'ai regardé les photos et je me suis rendu compte que c'était toujours au même endroit, ces taches-là. Tout de suite, j'ai deviné c'était quoi. C'est une tache sur le capteur ou le miroir. C'est vraiment un problème de nettoyage. C'est vraiment important de le faire. On nettoie ses objectifs super bien. On y fait attention, mais on oublie qu'il faut aussi nettoyer. Pourquoi qu'il faut nettoyer en dedans? Ben parce que quand on change d'objectif, on n'a pas toujours la bonne méthode. Hein? Des fois, on est pressé, même si on connaît la bonne méthode, qui est, soit dit en passant, de mettre le boîtier vers le bas avec l'objectif. On le détache à ce moment-là quand le miroir est face vers le bas, évidemment, pour pas que les poussières se déposent le moins possible. Ouais. On peut aussi se cacher dans une petite pièce.
Un placard.
Un placard. Ou...
Bon. On en a parlé d'ailleurs pour ceux qui veulent réécouter tout le topo là, en détail. C'est à l'épisode 14, à la 9e minute. Donc, j'ai cherché avant quand même.
C'est précis.
C'est pratique quand on prend des photos dans la maison de se cacher dans le placard. Sinon, faites pas le trajet, là, ça vaut pas la peine. Alors, pour remédier à la situation, en fait, pour évidemment, c'est nettoyer. Si on se doute qu'on a des taches sur le capteur ou sur le miroir, voici un petit truc bien pratique pour voir. On va placer son ouverture de diaphragme à F22 si votre appareil le permet. Ou sinon, vous allez vraiment à l'ouverture la plus petite possible.
Donc, le chiffre le plus gros.
Exactement. Et vous allez prendre une photo en direction d'une source lumineuse intense. Ce qui va arriver, c'est que ça va jeter toute la lumière sur l'objectif, le capteur, le miroir. Et étant donné qu'on est à ouverture très, très petite, on a déjà parlé. Il y a une relation avec la profondeur de champ qui va être au maximum. On va voir le plus possible d'objets au foyer, y compris tout près du capteur, de l'objectif et du miroir. Ça va faire apparaître, je vous jure, des saloperies comme vous n'avez jamais vu sur vos appareils, à un tel point que vous allez dire, ben voyons, je l'ai nettoyé, mais...
J'utilise la fonction de nettoyage automatique.
Donc, faites le test avec vos appareils, vous allez voir, il apparaît quand même plusieurs trucs. C'est normal qu'il y en ait encore après un nettoyage, mais ils ne vont jamais apparaître dans vos photos parce que là, on est dans une situation extrême. Là.
Et si vous n'étiez pas à l'aise de faire le nettoyage vous-même, à la limite, confiez-le à quelqu'un en boutique.
Ouais.
Mais essayez-le au moins.
À gros prix.
Oui, ben c'est ça, c'est que c'est cher, mais si
Il y a des affaires, j'avoue même moi, là, s'il y avait quelque chose de très gros qui ne peut pas partir, là, je sais qu'il y a des méthodes pour le faire, mais je sais pas si tu veux le faire.
Oui, il y a une photo qui se promène sur Internet en ce moment là, d'un appareil réflexe que quelqu'un a mis dans l'eau de vaisselle et qui savonne allègrement avec le capteur ouvert. Et
ça ne battra pas la 5D utilisée comme cendrier, personnellement, mais bon.
Sacrilège.
Donc, oui. Le petit truc du jour pour vérifier votre appareil.
Maintenant, je vais vous présenter deux petits sites intéressants, en fait, qui ont été découverts par des auditeurs. Le premier nous vient de Marin Dumont sur Twitter, et ça s'appelle Cours Photophile. Donc, l'adresse est cours-photophile.com, photophile au pluriel, et il y a un paquet de tutoriels, de trucs sur la photo sur ce site-là. C'est incroyable comme source d'information. Il y a des trucs sur le HDR, sur le portrait, la photographie de studio, il y a vraiment de tout. Donc, vous avez du temps pour faire un peu de lecture, c'est un site recommandé. Il y a un auditeur assidu, JFO Ferguson, aussi, qui nous a envoyé un lien vers la toute première lentille cornéenne munie d'un zoom, 2.8x.
À ta minute, là.
Oui.
J'ai bien compris.
En anglais, ils appellent ça Telescopic Contact Lens. Donc, un verre de contact, une lentille cornéenne télescopique. Donc, okay,
autrement dit, qu'il y a un zoom fixe, là.
Oui.
Quand tu enfiles ta lentille cornéenne, tu as un zoom.
Oui. Je sais pas.
Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas les bonnes personnes qui vont utiliser ces affaires-là, mais en tout cas.
Enfin, la lentille mesure 8 mm de diamètre, 1 mm d'épais. Et à son centre, on parle de 1,7 mm d'épais.
Puis c'est quoi? Tu payes sur un bouton pour augmenter le zoom? C'est sérieux? Comment tu fais?
Oui, c'est un truc directement à l'extérieur de la rétine qui utilise des miroirs. En fait...
Non, mais c'est...
Je vais
plutôt rédiger le mode de fonctionnement dans les notes parce que c'est quand même assez complexe à expliquer comme ça. Là. Mais c'est quelque chose de spécial. Et là... Justement, dans l'article, la personne se pose la question à quand l'appareil photo intégré aussi, un coup parti. Donc, on n'aura même plus besoin de gadgets comme les Google Glass.
Ça rejoint un peu notre sujet sur la vision du futur.
Oui, et qui ta vision.
Les appareils photo. Hein.
Qui était un implant corporel.
Si oui, c'était connecté directement. Connecté. Ouais.
Donc, enfin...
J'aime ça.
Oui, pas moi.
Non, je sais pas. Comme je vous dis, moi, je vois trop de mauvaises choses qui peuvent être faites avec ça. Là.
De mauvaise utilisation.
Surtout des hommes à utiliser ça. Je sais pas, là, mais non.
Enfin. Et vous l'avez sûrement remarqué, il y a aussi récemment eu un concert d'appareils Nikon, qui est une vidéo, je crois que c'était sur YouTube. C'est des appareils Nikon différents modèles, donc qui ont un bruit de déclencheur différent, des trucs genre de mode rafale. Et ça dure presque une minute et après, il y a une petite explication de la vidéo. Donc, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. C'est vraiment...
Quelqu'un qui a juste trop d'heures de...
Oui, trop de temps à perdre.
Trop de temps à perdre.
Carrément.
Mais ça doit être cool.
C'est spécial. Enfin. Maintenant, Christian, tu vas nous présenter... Les premiers trucs de cet épisode, 5 idées pour relancer son inspiration en photo, je crois, c'est ça?
Exactement. J'ai vu un article sur un autre site intéressant, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y a énormément de choses. Digital Photography School, si vous voulez, il y a vraiment plein de choses intéressantes là-dessus. Puis je suis tombé sur un article, puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'est beaucoup destiné aux personnes qui n'ont pas fait ou qui font moins de photographies. Est-ce que c'est le manque de défis? Est-ce que c'est parce que, le cœur n'y est plus, l'intérêt? Tout ça, mais c'est tout des petits trucs pour essayer de donner un coup de pied dans le derrière pour aller en faire plus, finalement.
Il y a beaucoup de gens qui se sont payés un appareil DSLR super, tu sais, bien équipé, puis tout. Puis j'entends souvent ça après un an. Ça traîne,
je connais quelqu'un qui a une 7D qui prend genre 3 photos par mois.
Je suis curieux d'entendre tes trucs.
Celui-là, on en a déjà parlé dans le passé, mais ça reste toujours un excellent. C'est faire des photoshoots avec un objectif fixe.
Focale
une focale fixe.
Comme Patrick Pilon parlait.
Exactement. C'est un défi en soi, mm-hmm. définitivement. Que ce soit une 50 mm, une 85, une 100, n'importe quoi, on est obligé de travailler avec. Mm. Moi, je vous avoue, là, puis j'en ai déjà parlé dans le passé, j'aimerais ça me trouver une 85 mm, une... c'est quoi, c'est 1.8, parce que j'ai pas les moyens de payer la 1.2. Puis, parce que c'est justement, c'est le défi de travailler avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui préfère des cadrés un peu plus serrés. Fait que ma 50 mm, elle me plaisait un petit peu moins par rapport à ça, mais 85 mm, je pense que j'aurais plus qu'est-ce que je veux faire avec.
Mm-hmm.
Fait que c'est toujours ça. C'est de se forcer à jouer avec juste une position, dans le fond. On peut le faire aussi avec un zoom, en se disant, moi, je zoomerai pas, je vais toujours le laisser au bout ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas les moyens. Mais ça serait juste de toujours se garder avec ça en tête.
Oui, parce que le réflexe, si on sait qu'on a un zoom, c'est vraiment de... On va être porté à changer la focale, veux pas. Là. Ça prend énormément de volonté,
de volonté, de discipline. Exactement, exactement. Oh, mettez du ruban électrique noir là, qui vous empêche de bouger votre... ça, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Faire comme si vous aviez un rouleau de négatif dans
une
le
pellicule,
fond. Ou une pellicule. Vous n'avez que 36 photos que vous pouvez prendre. Vous ne pouvez pas regarder c'est quoi votre photo. Vous ne prenez que 36 photos. Ça, je vous avoue, franchement, j'aurais de la misère avec celle-là.
Mm-hmm.
Puis je vais l'essayer. Je pense que je vais m'essayer à un moment donné pour de vrai parce que. Il me semble que c'est un beau défi à se donner, ça. C'est...
Tu prends maximum de 36 photos dans ta journée ou ta sortie.
Exact.
Et t'as pas le droit de les regarder non plus, c'est ça?
Ben, c'est le suivant. On peut, évidemment, vous pouvez les faire un après l'autre, mais si vous voulez combiner les toutes ensemble, ça va vous faire tout un défi, je vous le dis.
Oui.
Parce que le prochain, c'est enlever votre écran. Désactiver votre écran. Ça ne vous donnera pas l'occasion de voir votre photo. Fait que vous allez être obligé de prendre la photo, puis vous allez être obligé de la penser beaucoup plus, votre photo, prendre votre temps pour la passer. Vous ne pouvez pas dire, comme moi, et je l'avoue, j'ai le mode rafale sur ma caméra, je prends des photos, puis je l'active souvent, puis j'en prends 6-7 d'une shot, puis là, je me dis, pas grave, de toute façon, dans mes 6-7, je vais sûrement en avoir une qui va être correcte, placée correctement. Je m'en fais pas avec ça.
Mm-hmm. Moi, je soupçonne l'auteur de cet article d'avoir plus de 40 ans.
Probablement.
Peut-être plus que 50.
C'est bien probable, mais...
Je dis ça de même.
Non, mais il y a quand même... Tu sais, c'est tout pour se donner un défi pour essayer de se pousser toujours plus loin.
Mm-hmm.
Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Le prochain... Celui-là me ferait mal, là, mais en même temps, je vais l'essayer à un moment donné. Seulement manuel focus. N'utilisez aucun autofocus.
Mais moi, je commence à le faire. Pas parce que je suis blasé ou
non,
que...
Non.
Mais c'est vraiment... Pour essayer,
je l'ai fait
pour expérimenter autre chose.
Ben, je l'ai fait surtout quand tu as d'abord une luminosité. Ça, tu n'as pas le choix de toute façon ou à peu près. Fait que je l'ai fait un peu. Puis, comme je disais, mes résultats sont moyens. Je sais que mes yeux, la force a changé. J'ai pas eu le temps d'aller changer mes lunettes. Fait que, je suis quelqu'un qui est très, 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 très exigeant sur le côté très précis de mes photos.
Même en changeant la dioptrie, Non, tu n'y arrives pas.
Ben,
si tu as envie d'essayer ce truc-là, moi, j'ai un petit bidule à te recommander.
True.
Ça s'appelle... C'est une loupe, finalement, que tu colles sur ton écran. Évidemment, si tu décides d'utiliser le mode écran,
mm-hmm.
parce que là, bon, dans
si
ton...
Si tu n'as pas combiné tous les éléments à date, là...
Ça te permet de grossir l'écran, puis la mise au point
Beaucoup
plus
facilement.
Ça coûte juste une soixantaine de dollars, la version... La copie chinoise là, de l'original qui coûte une centaine de dollars.
Mm-hmm.
Mais avec
ça pourrait être une idée. Bon. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de caméras que j'ai testées dans les dernières semaines, mois, qui donnent cette option-là d'avoir un zoom juste d'un point qui te permet de voir si c'est au focus ou quoi que ce soit, juste dans le milieu de ton écran. Fait que en tout cas,
c'est mais comme le Nexus 6, il me permet un zoom 2x quand je fais la mise au point manuelle. C'est super pratique.
Mais je trouve ça quand même pratique, moi aussi, j'avoue. Là. Puis j'en ai même vu d'autres qui, eux, même si tu n'es pas automatique ton focus, il te le dit quand tu es au focus.
Mm-hmm.
Fait que ça aussi, ça peut être intéressant quand même.
Oui. Ben en fait, mon 60D me le dit.
Moi aussi.
Ouais, c'est dans le 7D aussi. Hein. Ouais. C'est ça. L'appareil, normalement, le
j'imagine que Nikon aussi, c'est la même chose.
Probablement.
Ça
serait
il faut maintenir le doigt sur,
mm-hmm.
sur le déclencheur à demi-pression, puis en bougeant son foyer, sa bague de focus, c'est là qu'on le voit.
L'autre, je pense que ce n'est un pour moi, celui-là. Se limiter à une ouverture, mais pas la plus grande.
Non, c'est ça.
Moi aussi, c'est l'inverse, parce que moi, j'ai vraiment tendance, je ne change que très rarement mon ouverture à 4. J'aime beaucoup, beaucoup quand il y a beaucoup de bokeh, que c'est crémeux et tout ça. J'adore.
Presque toujours à 2.8.
C'est ça.
Parce que ça me permet une plus grande vitesse aussi. Là.
Ça aussi, définitivement. Mais c'est le résultat que j'aime bien.
Ouais.
Mais cet après-midi, je suis allé au jardin botanique, puis je me suis essayé à prendre des photos à 5.6 et à 8, certaines affaires, parce que justement, c'était plus loin, puis là, c'était le détail que je voulais. C'était j'ai pris quelques photos de fleurs très, très proches, là, mais exemple, c'était les mosaïques cultures, puis c'était vraiment des très, très grosses sculptures. Fait que je voulais le plus de détails. Fait que je prenais mes photos à 8, puis à 5.6, etc. Puis je me suis dit, c'est ça, il faut qu'on se dompte, parce qu'au début, ma caméra, vraiment, elle n'est que à 4. Je n'utilise rien d'autre que ça. Fait que, puis comme toi, quand j'avais mon objectif à 2.8, il était toujours à 2.8.
Ouais. Puis on perd un petit peu de piqué, justement,
oui,
de netteté quand on est ouvert au maximum.
Tout
comme on
fait.
Disait, l'idéal, c'est de fermer d'un cran. Puis là, on va avoir une meilleure netteté de toute façon. Donc, c'est de prendre l'habitude de développer le réflexe de le faire.
C'est ça. Fait que comme on dit, c'est juste, dans le fond, pour s'essayer de se forcer. Puis se donner un petit défi comme ça, ben on sait pas ce que ça peut mener. Parce que on sait pas, peut-être que justement, en réalité, on était tanné des photos qui étaient toujours crameuses, puis tout ça. Puis finalement, c'est la netteté que tu veux, puis c'est le détail. Puis c'est ridicule, mais ça peut être aussi simple que ça. On sait pas. Juste le fait de se donner un petit défi comme ça, où est-ce que ça peut se mener?
Ouais.
Fait que j'ai trouvé cet article-là intéressant, mais je suspecte évidemment, comme François, moi aussi, qui a été écrit par quelqu'un qui fait de la photo depuis, comment pourrait-on dire, l'ancienne technologie.
Ouais.
Fait que, mais quand même, je l'ai trouvé pertinent malgré tout.
Ça me semble assez évident, parce que tous les conseils qu'il donne,
c'est
à
pas
part
mal.
Le premier, je pense... On parle de reculer en technologie.
Même le premier, c'est des focales fixes.
C'est ça. Fait qu'on parle vraiment de reculer dans le temps. Mm-hmm. C'est ça que j'entends.
Oui.
Mais
c'est pas mauvais. Justement, parce qu'on se laisse... on s'habitue à toutes ces gâteries-là, si on tous ces bidules-là. Là, c'est vraiment de revenir à l'essence même de la photographie, de vraiment penser à sa composition, au sujet, à s'imposer des limites qu'il y avait aussi avec l'équipement d'autrefois qui était moins sophistiqué. C'est très bien. C'est de bonnes idées. Pour continuer dans cette même veine de conseils, moi, ça porte surtout sur la photographie de paysage. Malheureusement, je n'ai pas l'occasion d'en faire aussi souvent que je voudrais, mais il y a quand même plusieurs trucs à donner aux auditeurs, justement, qui ont peut-être la chance d'en faire plus souvent que moi, là, des trucs auxquels on ne pense pas nécessairement toujours. Tout d'abord, le premier truc, c'est d'inclure des éléments en avant-plan quand on prend un paysage, pas juste de prendre la montagne au loin, mais vraiment de garder des trucs au premier plan, donc plus près de soi, que ce soit des arbres, un espèce de gros rocher, des trucs comme ça.
Une clôture, des fleurs par terre.
C'est ça.
Oui.
Donc, puis on...
Mais là, encore une fois, c'est plus intéressant justement si vous mettez une ouverture un peu plus petite pour garder un peu plus de détails aussi à votre avant-plan, par contre.
Oui, exactement. Ben, c'est ça, ouvrir à F11 ou F22 même. Donc, puis ça éventuellement, ça va m'amener, pas à cet épisode-ci, mais dans un épisode futur, à parler de l'hyperfocal. Parce que ça fait longtemps que je veux en parler, mais je vais amener le sujet.
Je m'en rappelle, oui.
Tu te rappelles l'année dernière?
Oui, à peu près, oui.
Mais on doit attendre aussi que les auditeurs, hein, on fait un cheminement, on apprend un paquet de trucs, puis éventuellement, ben là, on pourra parler de concepts plus théoriques, plus... tu sais, pas des trucs auxquels...
théoriques, oui.
Non, mais c'est pas des trucs auxquels où on va se dire, bon, là, je vais photographier, alors c'est quoi mon hyperfocal? Tu sais, c'est pas
un réflexe
qu'on a nécessairement, donc c'est quelque chose qu'on va peut-être... penser à un moment donné en se disant « Ah là, je suis rendu à ce niveau-là, à ce point-là, je vais commencer à porter attention à ce genre de truc. » Enfin, deuxième truc, prendre son temps. L'erreur que les gens font souvent, c'est de se dépêcher, de dire « Ah, je prends 2-3 photos, merci, j'ai pris mon paysage, je m'en vais. » En prenant son temps, souvent, on va voir des trucs qu'on n'avait pas aperçus au premier coup d'œil. Donc,
Si vous voulez un truc pour cela aussi, amenez pas vos enfants.
Oui. En fait, c'est pas là. C'est ça, c'est pas qu'on ne peut pas prendre son temps. C'est pas qu'on ne veut pas prendre son temps,
c'est qu'on ne peut pas prendre son temps.
Exactement.
J'en parle avec, comment je pourrais dire, connaissance de cause.
Oui, beaucoup d'expérience, moi aussi, là-dessus. Et troisième conseil, les gens souvent oublient de photographier en mode portrait un paysage. Donc, ça peut être intéressant d'avoir, je sais pas moi, des animaux, des trucs, puis de voir un paysage qui s'étend au loin. On n'est pas obligé de le prendre en format paysage nécessairement.
Je vous le conseille fortement. Ouais. Ça l'allonge beaucoup, plusieurs photos. Puis c'est particulièrement utile pour ce que tu disais comme première chose. Quand on a beaucoup de détails en avant, puis qu'on peut garder, puis qu'on veut avoir le reste.
Ouais.
Je vais donner un exemple d'une photo que j'ai prise cet après-midi en mode portrait. C'était une mosaïculture, c'était une grenouille. Puis elle était devant un bassin qui avait des nénuphars. Mm-hmm. Mais si je la prenais en mode paysage, mm-hmm. je voyais presque pas les nénuphars.
Mm-hmm.
Puis en la prenant en mode portrait, ben on voyait les nénuphars, on voyait le bassin et on voyait la grenouille. Mm. Ça, c'était plus intéressant.
Ça permet aussi de découper les plans. Si on a différents plans, là, ça devient intéressant à ce moment-là, plutôt que de le voir vraiment sur la largeur. Une autre erreur que les gens font souvent, c'est d'avoir un horizon incliné, un horizon penché qui n'est pas au niveau. Ça se retouche. Dans Lightroom 5, vous essayerez ça si vous faites une mise à niveau. Et Aperture, mm-hmm. une petite fonction qui prend une seconde, ça redresse ton image et ça... Plutôt comme dans Photoshop, avant, je faisais la rotation 1 degré, 2 degrés, c'est pas exact. Là, il faut rogner la photo. Puis
ouais.
C'est fastidieux. Ouais. Là. Dans Lightroom, un bouton, merci, c'est réglé.
Ah, OK. Non, ben dans Aperture, c'est tu payes sur un bouton puis tu joues avec ton...
Ah, même pas. Lightroom 5,
c'est facile parce que tu le vois live.
Ouais.
Fait que tu peux le corriger toi-même. Fait que ça va quand même assez bien.
Lightroom 5, t'as horizontal, vertical, les deux. C'est génial. Ça, c'est un des gros points positifs de Lightroom 5, je trouve. Enfin. Ensuite, comme autre truc, c'est ça. C'est que souvent, les gens vont photographier avec une grande ouverture en prenant seulement un élément. Donc, oui, on fait du paysage, mais on va photographier peut-être à f4 ou f5.6, puis on se dit, bon, les arbres que je veux photographier, la ligne d'arbres, la rangée d'arbres est au focus, le reste est plus ou moins important. Non, il peut y avoir des détails dans le ciel, il peut y avoir toutes sortes de trucs. Donc, vraiment, fermer l'ouverture pour avoir un maximum de détails dans le paysage. Ensuite, trop de détails, ce qui devient finalement du bruit dans la photo, pas du bruit comme le grain, là, mais du bruit parce qu'il y a trop d'éléments qui vont détourner le regard. Ça m'est arrivé, j'ai pris une photographie une fois en vacances, il y avait beaucoup de vélos de stationnés, si on veut, et derrière, il y avait un mini-golf, un mini-pot, puis là, il y avait plein de trucs, puis au départ, je trouvais l'idée était bonne parce que mon angle était bon pour photographier les vélos, mais derrière, il y avait beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de couleurs, ouais, et la photo couleur. Était trop chargée, c'est ça, beaucoup
la couleur aussi, il faut faire attention avec ça, parce exactement. Que des fois, on se dit, ah, oh, il y a plein de fleurs, sont plein de couleurs différentes, mais à un moment donné, ton œil se promène de l'une à l'autre, tu sais plus quoi regarder. Exact. Là.
Donc, il faut vraiment composer sa photo, composer son image avant, réfléchir justement en prenant son temps, regarder qu'est-ce qu'on veut photographier, puis éviter qu'il y ait trop d'éléments. Comme ça peut être des branches aussi en avant-plan qui vont mm-hmm. complètement bousiller l'effet qu'on veut avoir ou le regard qu'on veut guider vers un élément. S'il y a des trucs qui ne sont pas esthétiques en avant-plan ou des trucs comme ça, ça peut gâcher la photo. Et finalement, ne pas faire de post-production. On ne se le cachera pas, les outils sont là. Les gens le faisaient avant dans les chambres noires. C'était peut-être plus artistique comme processus, si on veut, ou peut-être plus ésotérique pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Mais il faut faire de la post-production pour certaines photos, sinon il y a des photos qui ne ressortent pas. Parce qu'il y avait trop de nuages, parce qu'il y avait si... Donc...
Tout comme... En tout cas, moi, j'avoue que je fais beaucoup de post-production parce mm-hmm. que on n'a pas tous les moyens d'avoir le matériel qu'il nous faudrait. Tu sais, des fois, ça te prendrait un filtre neutralisant. Oui. Ça prend si ça prend ça. Un, j'ai pas toujours le temps. Deux, j'ai pas toujours l'argent. Puis je sais qu'en post-production, je vais avoir le même résultat.
Mm.
Fait que j'avoue que moi...
C'est sûr que généralement, la post-production prend plus de temps que si on a réussi à avoir... Si on a installé un filtre polarisant ou si on a fait des trucs comme ça, ça prend moins de temps à visser le filtre polarisant sur l'objectif que d'essayer de retoucher après ça dans Lightroom ou un autre logiciel. Mais à la limite, ça sauve des photos. Donc, pourquoi ne pas le faire? C'est surtout qu'il y a des logiciels gratuits ou vraiment abordables. Donc, enfin, c'est utiliser les outils qu'on a pour parvenir aux résultats qu'on souhaite obtenir.
Regardez, aujourd'hui, on avait une magnifique température de gris. Et à l'occasion, j'ai réussi à avoir un peu de ciel bleu, mais justement, j'avais pas mon filtre polarisant. Alors, pas capable d'avoir un ciel bleu. Ben, je sais qu'en post-production, je vais être capable d'aller rechercher au moins en partie mon ciel plus bleu que ce que j'avais.
Une certaine teinte, là, c'est ça. Bon. Alors, ça fait le tour pour mes petits conseils de photos de paysage ou enfin comme les erreurs à éviter. Mm-hmm. Et maintenant, François, lui, va nous donner d'autres conseils pour de la photo avec la lumière naturelle.
Épisode conseil.
Oui, ben oui.
Ouais, mais c'est bien. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu autant. Ouais.
Si vous avez tous vu sûrement à un moment donné ou à un autre des photos prises avec une lumière qui parvenait d'une fenêtre ou en tout cas de la grosse lumière naturelle à l'intérieur d'une pièce, ça donne des effets intéressants. C'est pas aussi évident que de placer son sujet devant la fenêtre puis de dire « Attends, je te prends photo » parce que la lumière qui vient de l'extérieur, elle peut être très dure, très directe comparée à l'intérieur. Donc, il y a des petits trucs qu'on peut faire pour utiliser cette lumière-là qui peut être vraiment très belle. Quelque chose qu'on peut faire, c'est placer un drap blanc devant la fenêtre pour filtrer la lumière. Puis je vous jure, ça donne vraiment un effet spectaculaire. Ça va enrober votre sujet de lumière au lieu d'avoir un effet direct. Puis là, je parle de journée ensoleillée ou pas. Là. Mm-hmm. Ça a peu ou pas d'incidence. Ça va filtrer la lumière. Ça va faire quelque chose de vraiment bien. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un gobo. Un gobo, c'est une espèce de forme qu'on découpe dans un carton, quelque chose comme ça. On va placer ça devant la source lumineuse. Puis là je parle de fenêtre, mais ça peut être n'importe où. Là. On place ça devant sa source pour créer des effets d'ombre.
Mm-hmm.
On peut créer des barres, un effet de barreau dans une fenêtre, un effet de carreau aussi. Tout ça pour rendre ça plus naturel, sa photo.
Mm-hmm.
Comme si la lumière, justement, traversait des carreaux, même si votre fenêtre n'a pas. Il y a toutes sortes de trucs. On peut aussi, je pense à quelque chose que j'ai fait souvent, c'est utiliser un rouleau de papier noir, de ruban noir, là. Puis on crée des carreaux dans la fenêtre carrément avec juste du ruban.
L'idée,
c'est que la lumière passe pas au travers de ces carreaux-là, entre guillemets. Ça peut donner un effet d'ombrage super intéressant à votre photo.
Mm-hmm.
Puis là, allez-y avec votre imagination. Là. Ça peut être n'importe quoi. On crée des ombres pour donner un effet naturel. Si on place notre sujet devant la fenêtre, bon, on peut la placer de différentes façons, face à la lumière, de côté à la lumière. Si on décide de placer de côté à la lumière, il y a forcément un côté qui ne sera pas éclairé. C'est le côté opposé à la fenêtre. Servez-vous d'un réflecteur. Si vous avez ça dans votre kit, vous allez pouvoir égaliser votre sujet, même travailler la façon que la lumière reflète sur la personne. Faites des tests, allez-y.
Ça peut être un simple carton blanc aussi.
Oui, carton, exactement. Ça, hein? Ou le même drap que je parlais pour la fin. Il peut servir aussi de réflecteur. En fait, tout ce qui est blanc va bien réfléchir la lumière à différents niveaux, mais on s'entend pour dire que qu'est-ce qui est blanc puis plat va réfléchir la lumière assez facilement. On a juste à jouer avec la distance pour l'intensité sur notre sujet. Si on décide de placer son sujet face à la lumière, évidemment, on peut se glisser entre la fenêtre et notre sujet, mais on se trouve à avoir une belle lumière égale. Ça peut être l'effet qu'on veut. Donc, si on veut pas on veut pas de visage travaillé par la lumière, on veut que ça soit bien égal, bien éclairé, sans trop d'effet. Je donne un exemple. Votre sujet a 60 ans, 70 ans, puis on veut pas trop l'effet des rides, mais en plaçant son sujet face à la lumière, on va éliminer toutes les petites ombres qui font que le visage devient creusé de rides.
Parfait.
À l'inverse, si on veut que ça soit de côté, si on veut l'effet travailler avec la lumière, on le place de côté, on met pas trop de réflecteurs sur le côté opposé, on va pouvoir aller chercher vraiment des...
un maximum de rides.
Oui, puis, et je dirais faire perdre du poids même à des personnes, parce que ça va creuser les joues. Dans les joues, on donne une espèce de petit effet d'ombrage en travaillant son réflecteur, on va aller chercher de quoi de super beau.
Tout comme si tu mets ton réflecteur plus bas ou plus haut, va avoir des effets différents aussi, dépendant de ce que tu vas
tout
avoir.
Tout à fait. C'est, tout est une question d'angle, de lumière. C'est,
la photographie, c'est rien que lumière. Dans le fond, c'est tout ça, la lumière.
Photographie, c'est...
Donc,
c'est...
amusez-vous.
J'avais jamais pensé à ça.
Faites des photos de fenêtres, amusez-vous. C'est une super source lumineuse à travailler. Qui vaut la peine de tester.
Ce qui est le plus dur, je trouve, avec des photos de fenêtres, souvent, c'est quand tu arrives pour avec ton pose-mètre, quand tu vises, ben, tu n'auras pas nécessairement les bonnes données parce que là, tu as une lumière qui est assez forte à l'arrière et l'avant n'est pas bien éclairé. Mm-hmm. C'est ça que, c'est pour ça que moi, là, à ce moment-là, je tombe toujours en mode manuel parce que c'est beaucoup plus facile d'ajuster à ce moment-là. Mm-hmm. Mais,
c'est pour ça que je me sers d'un point de focus qui se trouve être un point de lecture aussi d'image. Mm-hmm. C'est pas juste le focus que ça fait. Quand on a un seul point, on peut carrément dire c'est là que je vais prendre ma lecture. C'est là que ton pose-mètre va s'ajuster. Bon, ça, c'est un autre truc, mais sinon, vive le numérique, là. Clique sur exposé, pas de problème, j'ajuste, clique, sous X, parfait, c'est entre les deux, je suis prêt, t'sais.
C'est ça. Tout à fait. Super.
C'était mon petit projet de semaine, amusez-vous avec votre fenêtre.
Super. Bon, et pour conclure l'épisode, Christian va nous faire la critique du Sony A99, un appareil... plein capteur, je crois.
En effet. Je ne sais pas si c'est le premier que Sony fait, mais en tout cas, je pense pas qu'il y en a eu beaucoup s'ils en ont déjà fait. J'avoue que j'avais déjà eu le SLT A99 dans les mains. Quand je l'avais eu un petit peu, j'avais pris quelques photos avec. Puis bon, la première impression m'avait été positive. Fait que quand on m'a donné l'opportunité de l'avoir encore pour 2 semaines, je l'ai définitivement prise. Je vais parler un petit peu des spécifications. Un capteur, comme tu disais, plein capteur de 24 mégapixels. Rien d'exceptionnel pour ce qui est des mégapixels, mais c'est correct. Encore une fois, c'est pas besoin c'est de parfait. Plus que ça. Là, c'est parfait. On a un viewfinder. Excuse-moi, j'oublie tout le temps.
Un
viseur OLED de 2,4 millions de points. Je vais revenir là-dessus. On a plage ISO de 100 à 25600. Je dirais que 6400 est très, très, très bon, très utilisable. Peut-être 12800 avec un peu de retravail. Mais c'est un plein capteur. Hein? Ouais. C'est pas particulièrement surprenant. 6 images par seconde. Je pense que j'avais mentionné dans un épisode précédent que c'était un petit peu plus que ça. C'est une erreur. C'est moi qui s'est trompé avec un autre appareil. Mais c'est 6 images par seconde. C'est correct. C'est, pour un plein capteur, c'est dans une bonne moyenne, 6 images par seconde. On parle aussi d'un écran qui se déplie. Qui bascule, qu'on peut le mettre sur le dessus.
À 180 degrés pour un autoportrait?
Non, mais c'est difficile de l'expliquer, mais il se remonte vraiment assez haut pour que tu puisses l'utiliser. Là, tu peux l'avoir à ta taille, puis tu as l'écran qui est un petit peu plus haut. C'est pas désagréable à utiliser, je dois dire. Là, dans les écrans pivotants que j'ai utilisés, c'est peut-être celui que j'ai préféré le plus à un... tel point que, en tout cas, j'en reviendrai là-dessus. On a un GPS intégré. On a le microphone stéréo. C'est intéressant ça aussi. Maintenant, l'appareil en tant que tel. D'ailleurs, sur du temps passant, c'est vrai, nous, il nous avait été prêté avec un objectif 24-70 de 2.8.
Oui.
Carl Zeiss. Un magnifique objectif. Si ce n'est qu'un petit peu lourd, mais c'est un peu prévisible. Mais disons que très, très solide, on voit beaucoup la qualité là, là-dedans. Il n'y a pas d'autre là-dessus.
On s'en doutait avec le prix.
Oui, parce que c'est cette magnifique merveille, les deux ensemble, on parle d'un 5 000 $. Mais oui, ça a l'air exorbitant, mais si on calcule, si on compare avec Nikon ou Canon, si on calcule que c'est avec l'objectif 24-70 2.8, le 5 000 $ devient pas si cher que ça, finalement. Là. C'est beaucoup moins cher que la compétition en général. Fait que ce côté-là, disons que Sony a fait ses devoirs. Là. Ils sont très agressifs là-dedans. Dans ses points positifs, solide, une bonne prise en main. La caméra a l'air, quand on est habitué au boîtier, autant Nikon que Sony, a l'air un peu étrange. Elle est comme
écrasée un peu. Plus, on dirait qu'elle donne l'impression d'être plus large. C'est un effet. Moi, les premières fois que je l'ai pris, ça m'a donné cette impression-là, mais la prise en main est très confortable, puis ça se dissipe rapidement. On a l'écran pivotant, là, vraiment, là, je dois dire que je l'ai beaucoup apprécié, l'image est belle, il se promène, on peut le relever vraiment haut, fait que ça fait que s'il est plaisant à utiliser, parce que le viseur, je suis pas convaincu.
OK. Est-ce qu'il y a un délai dans l'affichage ou c'est quoi?
C'est un viseur électronique.
C'est un viseur électronique. Je vais juste continuer avec les bons points, là, mais je vous dis que partie du problème est là.
OK.
Moi, j'ai aimé le GPS. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui trouvent que ça draine la batterie. Moi, je trouve que c'est quelque chose particulièrement en voyage que j'apprécie énormément sur un appareil photo. J'ai trouvé ça très le fun. Ça te permet facilement de retraquer où c'est que tu es allé. Puis moi, je dis, pour ceux qui ne l'aiment pas, ben désactivez-le. Parce que moi, en tout cas, j'ai pas remarqué. La batterie m'a duré assez longtemps. J'ai eu à la recharger deux fois, mais on parle de 500-600 clichés à chaque fois. Mm. Moi, je considère que c'est très raisonnable. Ouais. Considérant qu'en plus, le GPS était toujours activé, moi, je pense que ça a de l'allure. Bon, évidemment, l'ISO très performant, comme je disais, là, 6400. Puis même à 12800, là, j'ai pris quelques clichés, puis j'étais comme, bah, un petit peu de post-production minimale, puis l'image est très très belle. Là. Mm. Fait que là-dessus, j'ai beaucoup apprécié. Il y a une petite molette à l'avant, ben, quand on tient la caméra, à l'avant gauche.
OK.
Puis ça te permet de naviguer tes menus. Puis ça permet aussi, il y a le bouton, un bouton dessus. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ça parce qu'on tient souvent notre caméra. Moi, en tout cas, je la tiens. J'ai ma main droite, le déclencheur, etc. Puis je tiens l'autre main. Sous ou l'objectif ou en dessous du boîtier, dépendant. Puis ça fait que cette molette-là est facilement atteignable, facilement utilisable. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son emplacement. Puis on peut la programmer, on peut mettre plein de choses dedans. Fait que ça donne aussi accès à un menu qui donne un peu toutes les fonctions de la caméra. On pèse sur le bouton, puis après ça, on tourne, puis on choisit ce qu'on veut. En tout cas, franchement, là-dessus, les menus sont bien faits. J'ai bien aimé ça, franchement. Mm-hmm. Deux cartes SD.
OK.
Ça, bon, c'est le standard, mm-hmm. mais moi, je considère quand même que c'est un très bon positif là, pour ce qui est quelque chose d'un pro. Dans les points négatifs, je les trouve un petit peu lourdes, particulièrement avec l'objectif. Bon, regarde, c'est sûr qu'ils sont pas tous avec ça, mais avec l'objectif, là, tous ceux à qui je l'ai prêté là, ont fait comme « Oh boy, je traînerai pas ça longtemps. »
Ouais, ouais.
Puis, en tout cas, j'ai déjà utilisé la 24-70 de Canon, puis elle m'a pas semblé être aussi lourde que celle-là. Fait que je sais pas si c'est juste l'objectif qui était très lourd.
Mm-hmm.
J'ai comparé un peu le poids. Je sais pas si c'est comme je disais, un petit peu la taille ou tout ça. Je l'ai trouvé un petit peu moins confortable, minimalement. Là. Regarde, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait de l'acheter là, si j'avais les moyens, là, mais je l'ai trouvé un peu lourde.
Mm-hmm.
La zone de point d'autofocus est plus petite que beaucoup d'autres appareils. J'ai trouvé, encore une fois, je me rappelle pas, je pense que c'est la D600 que j'avais passé un commentaire de similaire. C'est restreint.
Okay. C'est plus centré.
Ouais, c'est plus centré, puis c'est des drôles de zones. Je sais pas trop à quoi qu'ils ont pensé. Là. Disons que c'est pas les emplacements que j'aurais utilisés. C'est comme fait un peu en H. C'est particulier un peu. T'en as beaucoup dans les coins, puis en haut et en bas, mais au milieu, il n'y a comme rien en haut et en bas. En tout cas, c'est un peu particulier. Ben. Ouais. L'autofocus pour 6 images à seconde n'est pas assez rapide, à mon opinion.
Okay.
J'ai de la misère à avoir 6 clichés au focus, à moins que... Regarde, est-ce que c'est moi qui ne connais pas assez les modes? J'ai essayé plusieurs modes, je les ai trouvés, puis tout ça, mais j'ai pas eu... Pour 6 images à seconde, il me semblait qu'en tout cas, il y avait de la misère à faire le focus. Peut-être que c'est l'objectif qui n'est pas non plus vraiment adapté pour ça. J'en sais trop rien, mais en tout cas, tout ça pour dire que pour ça, c'est moyen. Et je vais en venir finalement au viseur. Le viseur. En partant, viseur électronique, c'est pas mon affaire. Ça marche pas. Il y a pas beaucoup de délai. Le délai est minimal. Ce qui m'a tué, c'est les couleurs.
Ah oui?
Trop pâle.
Okay.
Moi, j'ai trouvé que c'était trop pâle, la différence. Puis, ce qui m'a frappé et qui m'a choqué, je dirais, c'est que c'est pas le problème avec l'écran. Parce que si tu prends l'écran de la caméra, les couleurs sont très belles. Mm-hmm. Si tu regardes le viseur, systématiquement...
C'est comme délavé un peu.
Exactement. Là, c'est comme un peu délavé. Puis ça, je trouve ça mortel. Parce que quand tu essaies de prendre des photos, tu veux des belles couleurs, tu fais tout ça. Pas capable de l'avoir dans le visage.
Ça
tu regardes la...
pas,
ouais. Ouais, c'est ça. Tu regardes... Puis ce que je trouve fâchant, c'est que si tu regardes l'écran, les couleurs sont très, très belles. Fait au début, oui, tu sais, c'est une DSLR, tu prends le viseur. Puis plus ça avançait, moins je l'utilisais, plus j'utilisais l'écran. Mais parce que c'était pas satisfaisant.
C'est pas ajustable, ça, dans le menu.
Peut-être. J'ai regardé un petit peu, mais pas en détail. Comme je disais, moi, en partant, là, juste le fait que tu as un petit peu de délai...
Ouais, non.
Ça fait...
C'est la même chose, moi.
Ça me donne la misère à l'utiliser en partant. Fait que je l'ai essayé. Je l'ai essayé. J'ai pas détesté ça. Ça marche quand même assez bien. Mais vraiment, le deal breaker pour moi, là, c'est vraiment le fait que les couleurs sont trop délavées. Malgré ça, je crois que c'est un appareil extrêmement solide et qui, au prix, vaut définitivement la peine. Parce que si on compare à la compétition, pour quelque chose de similaire, c'est 6, 7, 8 000 $. C'est pas la même chose. Ouais, on parle pas du tout de la même gamme. Là. Oui, le viseur est pas parfait. Encore une fois, tu te poses toujours la question, je suis-tu le seul à penser comme ça? Non, je suis pas le seul. Ça semble être le problème. Le viseur, il y a beaucoup de monde qui s'en plaignent. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment trop habitué à l'optique puis qu'on n'a pas encore décroché de l'optique? C'est possible, là. Ouais. On fait de l'âgisme. On fait peut-être de l'âgisme, ça se peut. Mais je suis pas convaincu encore pour ça. Mais malgré tout, pour ce qui est du reste, il en donne beaucoup. Beaucoup. Comme je disais, là, c'est de la robustesse. J'ai pas... T'as un appareil professionnel dans les mains. Là. C'est vraiment, là, c'est robuste, c'est gros. On peut avoir aussi, bien entendu, ben, comme souvent, ben, ces appareils-là, il n'y a pas la battery poignée. Grip, la poignée, mais on peut en acheter une aussi qui n'est pas une mauvaise chose. Fait que, en tout cas, je pense qu'elle en vaut la peine, mais il faut apprendre peut-être à vivre avec les petits aléas d'avoir ce viseur numérique-là. Si vous êtes capable de vivre avec... Si vous êtes capable d'utiliser peut-être un peu plus l'écran, je pense que vous allez avoir quelque chose pour votre argent.
Est-ce que l'écran est tactile? Je me souviens pas si tu l'as mentionné.
Bonne question. Je pense pas qu'il l'est.
OK.
S'il l'est, je vais être franc, je l'ai pas utilisé en tant que tactile. Je pense pas parce que je l'ai pas utilisé. On fera la vérification, on le marquera, là, mais moi, je le vois pas dans mes notes. Puis, tu sais, on en a testé une et une autre caméra, mais je pense pas qu'il l'ait.
Pas de problème.
T'as essayé de me prendre par défaut cette fois-ci.
À mon tour. La vengeance est douce.
La vengeance est douce au cœur de l'aider. Mais bref, en tout cas, il est quand même recommandé parce que tout ce qu'il donne avec cet appareil-là, les photos sont vraiment très belles, les couleurs sont belles, un bon niveau de détail, comme je disais, l'ISO performant, fait que
t'avais un bon objectif aussi avec.
C'est sûr, là, on s'en cachera pas, là. On s'en cachera pas, mais...
Alors, François nous confirme.
Oui, en fait, Google me confirme que le A99 n'a pas d'écran tactile.
C'est ce que je pensais. Il me semblait pas que je l'aurais remarqué, il me semble. Fait que non, mais en tout cas, je le conseille quand même. Si vous êtes prêt, essayez-le, parce que c'est toujours la même chose. Mais moi, je vais vous dire, là, le petit écran, là, de la façon qu'on pouvait le déplacer, là, ça m'a convaincu de laisser le viseur de côté. Puis je suis très pro-viseur, surtout sur une DSLR. Pour les autres, je peux m'en passer, mais sur une DSLR, j'ai toujours l'œil dessus.
Bon. Alors, ceci conclut ce 36e épisode. Merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci François.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, chers auditeurs. Petit message en concluant cet épisode. Il est possible qu'on fasse une petite pause durant le mois d'août pour l'été. Alors peut-être que l'épisode 37 n'arrivera qu'en septembre à suivre. En attendant, pour nous soumettre vos questions, commentaires et suggestions, vous pouvez nous contacter par courriel à podcast@objectifnumerique.com. N'oubliez pas non plus de participer au 5e défi photo sur les animaux. L'adresse pour nous envoyer vos images, c'est défiphoto, sans accent sur le E évidemment, défiphoto@objectifnumerique.com. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre, le compte s'appelle Au Numérique, et sur Facebook et Google+, Objectif Numérique. Merci, à la prochaine!